Seigneur, ouvre nos cœurs à ta grâce ce matin et enseigne-nous par ton esprit pour la gloire de Jésus. Amen. Eh bien, mes amis, dans cette matinée du 4 août, nous avions à considérer les versets du chapitre 3 des Romains à partir du verset 21 jusqu'à la fin du chapitre 5e. Et nous avons intitulé cette étude de cette portion « La rédemption et la justification par la foi au Seigneur Jésus ». Hier, nous avons terminé notre étude en démontrant que tous les hommes sont pécheurs et coupables devant Dieu et que personne ne peut être justifié par les œuvres de la loi, car c'est justement par la loi que vient la connaissance du péché. Et je pense que vous vous souviendrez d'une façon définitive de ce portrait de l'homme pécheur, qu'il soit juif ou païen, qui nous était décrit dans la première partie du chapitre 3, où nous voyons que tous les membres de l'homme qui ont été pourtant voulus par Dieu ont été employés pour le mal, qu'il soit question du gosier, de la langue, des lèvres, de la bouche, des pieds et des yeux. Mais aujourd'hui, nous allons considérer le nouveau moyen de salut trouvé par Dieu. C'est notre justification par la foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire en croyant à l'amour de Dieu qui nous a donné Jésus-Christ. Le seul moyen de justification, c'est donc, répétons-le, celui de la foi au sacrifice du Christ. C'est ce que nous avons dans cette portion de la fin du chapitre 3 des Romains, versets 21 à 31. La loi et ses ordonnances ne sont pas capables de procurer à l'homme la justification de ses fautes. Au contraire, avons-nous vu la loi nous convainc de péché et fait apparaître le péché dans toute son horreur, en même temps qu'elle révèle à l'homme son incapacité totale de parvenir à la gloire de Dieu. Donc la loi est employée pour deux choses, nous révéler l'horreur du péché et nous convaincre aussi de notre impuissance totale à accomplir la volonté de Dieu par nos propres forces. La loi nous condamne dans notre conscience et il ne nous reste plus qu'à nous juger nous-mêmes. De sorte que si nous négligeons la grâce qui nous est offerte, nous resterons muets devant Dieu, nous aurons la bouche fermée, et qu'est-ce que nous subirons alors? La colère de Dieu. Pour quelle raison? Parce que nous aurons refusé le Fils de Dieu. C'est cela le péché qui ne peut pas être pardonné. C'est le refus de la grâce. Vous vous condamnez vous-même. Ce n'est pas Dieu qui vous condamne, c'est vous-même qui vous êtes exclu de la grâce de Dieu, grâce que Dieu a fait apparaître à tous les hommes, puisque lui voulait que tous soient sauvés. Mais il ne violente pas la liberté de sa créature. Alors maintenant, depuis le verset 21, avec ces deux mots, mais maintenant, eh bien, l'apôtre nous introduit dans un tout nouveau sujet. Et ce sujet qui va nous occuper est des plus agréable. Après cette longue et sinistre parenthèse des chapitres 1, verset 18, au verset 20 du chapitre 3, nous avons enfin une portion qui est vraiment lumineuse. Dans cette parenthèse qui nous a occupé hier, l'apôtre a donc parlé du triste état de l'homme devant Dieu, des terribles conséquences de sa chute, aboutissant à cette conclusion que le monde mérite le jugement de Dieu. Est-ce que vous avez été convaincu de l'argumentation qu'emploie l'apôtre? Est-ce que nous sommes convaincus que le monde mérite le jugement de Dieu quand nous voyons ce qui s'y passe avec les yeux de Dieu saint qui a des yeux trop purs pour voir le mal? Est-ce que nous admettons qu'il puisse y avoir une colère en Dieu, cette réaction du bien en présence du mal? Si nous avons admis cela, alors vous pouvez passer dans l'autre portion. Mais maintenant, il y a le changement complet. L'apôtre va nous parler de ce que Dieu a fait pour remédier à la corruption de l'homme, et aussi il va nous parler de cette révélation de justice, de la justice de Dieu dans l'Évangile. La loi n'avait pas pu révéler cette justice, pas même la justice humaine, car la loi, nous le disions, elle nous donne la connaissance du péché. Mais dans l'Évangile de la grâce, la justice de Dieu nous est révélée sur ce principe de la foi et pour la foi. C'est une justice que nous ne fabriquons pas nous-mêmes, c'est une justice que Dieu nous donne. Et cette justice, elle est celle de Dieu, donc elle est parfaite. Nous n'avons rien à y ajouter. Et vouloir ajouter quelque chose à cette justice que Dieu nous donne, c'est offenser Dieu. C'est dire que ce qu'il nous donne n'est pas suffisant. Et c'est une des pires offenses que nous pouvons faire à Dieu. Dieu vous donne lui-même, dans son amour, sa justice. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Et cela, il nous le donne gratuitement. À nous maintenant, alors, de croire à cet amour de Dieu qui est actuellement bouleversant. Notre salut est par la foi. Et c'est ainsi que l'apôtre revient dans cette fin du chapitre, au verset 17 du premier chapitre, où il est question de l'Évangile qui nous donne la révélation de la justice de Dieu. Et il dit que cette justice, elle avait été annoncée par les prophètes, hein, mais maintenant, sans loi, et manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et dans les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour ceux qui croient. Dans l'Ancien Testament, cette justice de Dieu était donc annoncée. Prenez le chapitre 46 d'Ésaïe, par exemple, au verset 18. Non, il n'y a pas de verset 18, hein. Je m'excuse. Non, c'est verset 12. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, si éloignés de la justice. Je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion pour Israël, ma parure. Donc le prophète Ésaïe annonçait que cette justice allait paraître. Prenez maintenant dans le chapitre 56, le verset 1, Ainsi parle l'Éternel, observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut est sur le point d'arriver et ma justice de se révéler. Voilà ce que l'apôtre entend quand il dit que cette justice était attestée dans la loi et dans les prophètes, dans la loi de Moïse déjà, comme aussi dans les prophètes, et en particulier dans Ésaïe que je viens de vous citer. Cette justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour ceux qui croient. Car ne seront justifiés en définitive que ceux qui croient. Mais le salut que le Seigneur a accompli, il l'a accompli pour tous les hommes. De sorte que du côté de Dieu, rien ne manque. Tous les hommes peuvent être sauvés. Le Seigneur Jésus n'est pas mort seulement pour nos péchés à nous, mais pour ceux du monde entier. De sorte que le salut est pour l'humanité tout entière. Mais en définitive, ne seront sauvés que ceux qui, par la foi, s'approprient cette justice de Dieu que la grâce leur donne. Et verset 23e, il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qu'on soit païen ou qu'on soit juif, il est bien établi qu'aucun homme ne peut parvenir par ses propres efforts à la gloire de Dieu. Alors pourquoi vous efforcez-vous de plaire à Dieu par vos propres efforts? Vous ne le pouvez pas. Le Seigneur vous le dit. Cessez donc vos luttes vaines et jetez-vous dans ses bras. Admettez que vous ne pouvez pas vous sauver par vous-même. C'est tout ce que Dieu vous demande. C'est de reconnaître votre misère. Mais évidemment, c'est humiliant. Cela brise notre orgueil. Et nous ne voulons peut-être pas être gratuitement justifié par sa grâce. Pourtant, c'est le seul moyen de salut. Et c'est cela qui nous apporte la délivrance. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Le salut qui vous est donné par Dieu est un salut vraiment gratuit. Mais s'il est gratuit pour vous, souvenez-vous que le prix de cette grâce a coûté la vie du Fils de Dieu. La seule vie qui aurait pu paraître devant Dieu, la vie du Christ, eh bien c'est cette vie-là qui a été donnée pour le rachat de toutes nos fautes. Ce n'est pas par de l'or, par de l'argent, par des choses précieuses que nous avons été rachetés, nous dit Saint-Pierre, mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau préconnu dès avant la fondation du monde et qui serait manifesté au temps propre. Donc, nous sommes maintenant juifs ou païens, justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Il est le seul rédempteur pour l'humanité tout entière. Et il est ajouté, c'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation. Ça, c'est le choix de Dieu. Il n'a pas envoyé un archange, mais il a envoyé son propre fils. Autrement dit, il est venu lui-même. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Et maintenant, cette expiation est faite pour ceux qui auraient la foi et qui ont la foi en son sang, afin de montrer sa justice. Dieu ne vous condamne pas parce que vous êtes né pécheur. Dieu ne vous condamne pas parce que vous êtes faible et incapable d'accomplir la loi. Mais quand cette démonstration a été faite que vous êtes pécheur et que la démonstration est faite que vous ne pouvez pas vous en sortir par vous-même, vous serez condamné si vous vous obstinez à vouloir vous en sortir par vous-même. Ne pensez pas que vos efforts vont être comptabilisés par Dieu et qu'il tiendra compte de vos efforts. Par vos efforts, vous offensez le Seigneur. Et cela, vous devez le comprendre une fois pour toutes. par vos efforts, vous avez l'air de dire que Dieu, ce qu'il a fait n'est pas suffisant, et que vous, vous devez ajouter quelque chose. Mais n'allez pas dire que je vous ai dit de ne pas faire de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres découleront de cet amour alors qui entre dans votre cœur, quand vous comprenez que Dieu ne vous demande pas de faire votre salut, mais qu'il vous donne le salut. Et que c'est un salut complet, c'est un salut total, c'est un salut qui vous conduira jusque dans la gloire. Alors c'est là qu'il vous montre sa justice. Sa justice, il vous a créé, vous êtes ses créatures, mais en tant qu'il est le créateur, il a voulu être le responsable, le père de toute sa création. Et il nous montre encore combien grande est sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, jusqu'à ce que le Messie paraisse. Ce libérateur qu'il a promis déjà au premier couple, ensuite en Éden, quand il leur fait une promesse de miséricorde tout en devant les condamner, eh bien il leur fait cette promesse qu'un jour viendrait un libérateur qui écraserait la tête du serpent alors que lui-même, ce libérateur, serait blessé au talon. C'est ce qu'on appelle le protévangile, Genèse 3, 15. La première promesse concernant le libérateur de la postérité de la femme. Donc, comprenez-le bien, ce n'est pas Marie, comme on l'a dit quelquefois, qui aurait écrasé la tête du serpent, mais c'est la postérité de Marie, c'est la semence de la femme. Même toutes les traductions catholiques maintenant traduisent ça d'une façon correcte, et nous sommes tous d'accord pour reconnaître que la postérité de la femme, c'est le fils de la Vierge Marie, et c'est lui qui a écrasé la tête du serpent, alors que le serpent, c'est-à-dire Satan, a pu le blesser au talon, le talon étant la partie la plus basse de notre être, par laquelle nous touchons à la terre. Jésus a été atteint dans son humanité. Il ne pouvait pas être atteint dans sa divinité, mais dans son humanité qu'il avait revêtue, il a été atteint parce qu'il devait mourir. Le salaire du péché, c'était la mort. Si Jésus voulait nous sauver, il devait mourir. Et s'il était vraiment autorisé à pardonner nos péchés, il pouvait le faire seulement s'il était prêt à les expier. De sorte que tous les péchés que Jésus pardonnait, pas quand il pardonne à la femme adultère, va et ne pêche plus, il pouvait pardonner à la femme adultère pour quelle raison? Parce qu'il prenait son péché sur lui et qu'il allait l'expier à la croix. Tous les péchés que Jésus a pardonnés, ce sont des péchés qu'il allait expier. Et tous les péchés des hommes de l'Ancien Testament, ces péchés qui étaient restés impunis, eh bien, Dieu patientait. Pour quelle raison? Parce qu'il savait qu'un jour son Fils viendrait et que tous ces hommes de l'Ancien Testament qui avaient vécu avant Jésus seraient sauvés par quoi? Par l'œuvre de Jésus. De sorte que tous les hommes qui ont vécu avant la croix, mais qui ont cru au Seigneur, qui ont cru à la promesse, sont sauvés de la même manière que nous. Nous, nous sommes sauvés en regardant à la croix qui a été dressée à Golgotha. Eux, ceux qui ont vécu avant Jésus, ont été sauvés en regardant à la croix qui allait être dressée, en regardant à ce sacrifice. C'est ça que nous trouvons dans ce verset. Dieu a montré sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant dans le temps de sa patience. Jusqu'à ce que Jésus vienne, eh bien, les péchés étaient remis par l'expiation du sang des taureaux, des agneaux et des boucs. Mais on savait bien que ce n'était pas cela qui pouvait ôter le péché. Ces sacrifices ne faisaient qu'enseigner au monde la nécessité absolue d'un sang plus précieux encore, d'une vie qui rachèterait l'humanité. Et il a montré donc toute sa justice dans le temps présent maintenant, de manière à être reconnu juste en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Si Dieu ne justifiait pas Celui qui a la foi en Jésus, qu'est-ce qu'il serait? Il serait menteur, mais pas seulement menteur, il serait injuste. Parce que le prix a été payé. Si vous deviez une dette à un créancier, et qu'un ami ait payé votre dette, est-ce que votre créancier a droit de vous réclamer quelque chose, parce que vous n'avez pas payé vous-même? Eh bien, Dieu, c'est quelque chose qui me bouleverse, si j'ose dire une chose pareille, Dieu serait injuste s'il nous réclamait quelque chose. En tant que vous avez accepté son Fils, ce don est si parfait pour Dieu, si total, qu'il couvre toute votre misère. De sorte que Dieu ne vous considère plus comme pécheur. Voilà qui pourrait vous libérer dans votre conscience. Et c'est à cela que l'Esprit Saint va travailler. Nous sommes maintenant justifiés pleinement par le Seigneur Jésus. Où donc alors est le sujet de se glorifier? Ben, il est exclu. On ne peut plus prétendre qu'on a fait tellement de bonnes œuvres. Ce n'est pas par les œuvres qu'on peut être sauvé. Les œuvres seront la manifestation de l'authenticité de la réalité de notre foi. Mais vous voyez, le principe des œuvres du chrétien est tout différent des œuvres de celui qui veut devenir chrétien, qui veut ressembler à Jésus. Ce n'est pas cela. Il n'est pas question de ressembler simplement à Jésus. Il est question de laisser Jésus vivre sa vie en nous. D'avoir un Christ intérieur et non pas un Christ extérieur que l'on s'efforcerait d'imiter. C'est un modèle inimitable. Mais ce qu'il vous demande, c'est de renoncer à vous et de le laisser lui-même s'installer en vos vies pour que ce soit lui qui vive le christianisme. C'est lui qui a réalisé la loi, qui l'a rendue grande et honorable, et c'est lui qui va vivre cette vie dans vos vies. Laissez-le vivre et vous restez dans la mort. Et contemplez l'action de Jésus-Christ dans votre vie. Donc, quand quelque chose de bien est manifesté en vous, vous ne pouvez pas vous glorifier. Plus moyen de se glorifier. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, par la loi des œuvres, on pourrait se glorifier. Non, mais par la loi de la foi. C'est une règle. Si c'est vrai qu'on est sauvé par la foi, eh bien, il y a une loi là. On peut plus se glorifier. C'est la loi de la foi. La loi de la foi ne nous permet pas de nous glorifier. Car nous comptons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Pour Dieu, aux yeux de Dieu, comme lui voit les choses, notre justification est si totale qu'il n'a pas même besoin de voir nos œuvres. Le monde, alors, a besoin de voir nos œuvres. Mais pour Dieu qui connaît notre cœur, si votre foi est authentique, c'est une foi qui vous justifie totalement. Dieu n'a pas besoin de vos œuvres pour reconnaître l'authenticité de votre foi parce qu'il voit dans votre cœur. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des justes? Parce que si on pouvait être justifié par la loi, il n'y aurait que les justes qui seraient justifiés. Or, les païens ont aussi besoin de salut. Et les païens n'avaient pas la loi. Or, l'œuvre du Christ est aussi bien pour les païens qui étaient sans loi que pour les juifs qui avaient la loi. Ne l'est-il pas aussi des païens ou bien est-il seulement le Dieu des juifs? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera en vertu de la foi les circoncis et au moyen de la foi les incirconcis. Alors là, et nous y reviendrons peut-être à la fin de cette heure. Là, nous pouvons retourner au chapitre 2 cet épître aux Romains, où il est question des païens qui, sans avoir la loi écrite, la mettent en pratique parce que cette loi se trouve dans leur cœur. Et nous verrons comment des païens aussi seront sauvés. mais seront sauvés uniquement en vertu de l'œuvre de Christ, quand Dieu leur apprendra que s'ils sont sauvés, c'est parce que le Christ est mort aussi pour leurs péchés. De telle manière que si eux avaient connu le Christ, ils auraient cru en lui. Toute leur vie a démontré que s'ils avaient eu la connaissance du Christ, ils auraient cru en lui. Verset 31. Est-ce que nous annulons maintenant la loi par la foi? Certes non. Au contraire, nous confirmons la loi. La loi a été donnée pour que l'homme soit réellement convaincu qu'il ne pouvait pas s'en sortir. C'était là le rôle de la loi, et cette loi devait préparer l'homme à venir au Christ. C'est là toute la révélation de cette justice de Dieu. Vous vous souvenez que Jésus, dans le chapitre 16 de Jean, avait annoncé que le Saint-Esprit convaincrait le monde de péché, de justice et de jugement. Et il disait, il convaincra le monde de péché parce qu'il ne croit pas en moi. Alors qu'est-ce que c'est le péché? Essentiellement, c'est de ne pas croire au Seigneur. Comprenez-vous? Alors n'essayez plus de regarder si vous êtes pécheur en vous disant est-ce que j'ai commis adultère, est-ce que j'ai commis un crime, est-ce que j'ai commis ceci ou ça. Non, je n'ai pas commis. Non, est-ce que vous croyez au Seigneur Jésus? Si vous ne croyez pas, eh bien, vous continuez de vivre dans le péché. C'est le plus grand des péchés, c'est ce refus de croire. Mais le Saint-Esprit nous convainc aussi de justice. De justice parce que Dieu, justement, en ressuscitant son Fils, a montré sa justice en l'élevant dans la gloire et en le retirant du monde qui a manifesté son péché en rejetant celui que Dieu a glorifié. Dieu a envoyé son Fils. Son Fils a manifesté tous les caractères d'une vie qui plaisait à Dieu. Et qu'est-ce que les hommes ont fait? Même les gens religieux? Ils l'ont rejeté. Et il est mort sur une croix, alors qu'il semblait que Dieu l'avait abandonné. Est-ce que Dieu aurait été juste en le laissant dans la mort? C'est pas possible. Mais il fallait qu'il passât par la mort pour expier nos fautes. De sorte que, une fois qu'il a expié nos fautes, Dieu, dans sa justice, l'a ressuscité. Nous donnons à connaître qu'il avait accepté son sacrifice. Si Christ n'était pas ressuscité, nous ne saurions pas que nous sommes justifiés. C'est en le ressuscitant qu'il nous a donné à connaître que sa sainteté était parfaitement satisfaite, que les droits de sa justice avaient été reconnus et que maintenant il pouvait nous faire grâce. Donc la grâce que Dieu nous accorde repose sur une justice qui est satisfaite. Dieu ne passe pas l'éponge sur nos péchés, comme on le croit si souvent. Dieu est tellement bon, c'est un bon père, et il ne peut pas faire autrement que passer l'éponge. Ce n'est pas vrai. Dieu ne passe pas sur le péché. Le péché, il a été mis sur Jésus. Et quand le péché a été sur Jésus, qu'est-ce qui a été frappé? Jésus. Mais si vous ne voulez pas que vos péchés soient sur Jésus, qu'est-ce qu'il vous arrive? Vous serez vous-même condamné. Vos péchés restent sur vous, et alors, la colère de Dieu aussi vous atteindra. Mais ceux qui ont accepté la parole de Dieu, qui nous dit que Jésus a porté nos péchés, qu'il s'est chargé de nos iniquités, et que c'est dans ses meurtrissures que nous avons la guérison, si nous croyons cela, nous sommes sauvés. Nous n'avons pas à espérer être sauvés. Nous devons avoir la certitude que nous sommes sauvés. Et si j'ai la certitude de mon salut, c'est pas parce que je me crois meilleur qu'un autre, c'est justement parce que j'ai reconnu que j'étais pécheur. Comprenez cela définitivement. Un homme qui peut proclamer qu'il est sauvé, c'est un homme qui a dû d'abord reconnaître qu'il était perdu, qu'il était pécheur. Et alors, si vous résistez à cette conviction du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il reste ? Le jugement. Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Si vous ne voulez pas que le Saint-Esprit vous convainque dans ces choses, il ne reste plus pour vous que le jugement. Donc, le seul moyen de salut, c'est la justification par la foi au sacrifice du Christ. Ce moyen de salut ôte toute gloire à l'homme et donne toute gloire à Dieu. Et maintenant, vous avez le chapitre 4, versets 1 à 8. Où nous voyons que déjà la Sainte Écriture de l'Ancien Testament rendait témoignage à cette justification par la foi. Et nous avons là deux exemples d'hommes, Abraham et David, deux hommes que tous les Juifs révéraient et desquels descendait le Messie. Que dirons-nous donc d'Abraham ? Je vous ai parlé d'Abraham parce que justement nous allions en le retrouver ici. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre, selon la chair ? Qu'a-t-il obtenu ? Si en effet Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais devant Dieu, il n'en est pas ainsi. En effet, que dit l'Écriture ? Abraham crut à Dieu. Et cela lui fut compté comme justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté, non comme une grâce, mais comme un dû. Vous êtes d'accord ? Facile à comprendre, ça. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit à celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme une justice. Donc, ce que vous avez à reconnaître, c'est que vous étiez aussi, vous, des impies. Et maintenant, vous pouvez mesurer l'amour de Dieu dont sa grâce, il veut même justifier l'impie. De même, David proclame le bonheur de l'homme à qui Dieu met la justice contre... De même, David proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice sans œuvre. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Vous avez ça dans le psaume 32e, hein, et David en a fait l'expérience. Ce bonheur dont parle David, n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis, donc pour les païens? Car nous disons, pour Abraham, la foi fut comptée comme justice. Comment donc était-il lorsqu'elle lui fut comptée? Était-il circoncis ou non? Alors c'est là que vous avez besoin de lire la Genèse. Quand il est dit que Dieu compta à Abraham sa foi comme justice, c'est à quel moment? Avant la circoncision d'Abraham ou après? Avant. Donc, ce n'est pas la circoncision qui a sauvé Abraham. De sorte que ce n'est pas le baptême qui va vous sauver, mais c'est la foi. Le baptême sera le signe de votre foi, comme la circoncision a été le signe de la foi d'Abraham. Et c'est quelque chose de merveilleux de redire et de s'imprégner de ces vérités. Comment donc était-il lorsque elle lui fut comptée? Était-il circoncis ou non? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau. Comme nous aussi, nous recevons le baptême comme sceau. La circoncision a été reçue comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par quoi? Par ses œuvres? Non, par la foi, quand il était incirconcis. Il est ainsi le père de tous ceux qui croient. Abraham est donc devenu le père des croyants, bien qu'incirconcis, pour que la justice lui soit comptée. Et il est aussi le père des circoncis, qui n'ont pas seulement la circoncision, parce que ça ne suffirait pas. Il ne faut pas seulement avoir le baptême, ça ne nous suffirait pas. Il faut avoir la foi authentique. Et marcher sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Et nous avons vu quelques-unes de ces traces de la foi d'Abraham. J'espère que maintenant nous relions bien tout cela au message du matin. Et maintenant, depuis le verset 13e, vous avez une vision de la foi d'Abraham. En effet, ce n'est point par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa descendance. C'est par la justice de la foi. Et c'est vrai, la loi est venue à quel moment ? Par Moïse, donc plus tard. De sorte que la justice, par la foi, c'est à Abraham et à sa descendance qu'elle a été donnée. Si c'est par la loi qu'on est héritier, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la foi produit, la loi produit la colère, et où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. J'espère que vous avez compris cela. Quand la loi a été promulguée au Sinaï, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple avait dit à Moïse, eh bien, que Dieu nous dise ce que nous devons faire, et nous ferons sa volonté. Alors, Dieu répond, ben, vous voulez faire cela? Bien, voilà les 10 commandements. Et il donne les 10 commandements. Et qu'est-ce qui arrive? Dès ce moment-là, Israël, qu'est-ce qu'il manifeste? Est-ce qu'il l'accomplit, cette loi? Non, il la transgresse. Il montre qu'il n'est pas capable d'accomplir la loi. Vous voulez accomplir la loi? Bien, faites ces choses et vous vivrez. Mais est-ce que la loi a conduit à la vie? Non, pas du tout. Donc la loi a été ajoutée plus tard pour convaincre les hommes de péché. Mais la loi n'a pas été donnée pour sauver les hommes. Vous ne pourrez jamais être sauvés en voulant suivre la loi. Comprenez-le bien. Vous vous attelez là à une tâche qui n'est pas possible. C'est impossible d'être justifié par la loi, vous aurez toujours mauvaise conscience. Et ceux qui sont sous la loi, c'est des gens malheureux. Et ceux qui veulent seulement prendre le Christ comme modèle, sont des gens affreusement malheureux. Il ne vous faut pas prendre le Christ comme modèle, il vous faut le prendre comme votre vie. C'est lui qui doit devenir votre vie. Or, ce n'est plus un modèle extérieur, c'est une vie intérieure. Car la loi, c'est tellement vrai, produit la colère, et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Parce que quand la loi est là, et que je ne l'accomplis pas, et que je la transgresse, alors je deviens transgresseur. J'augmente donc ma responsabilité. Donc, c'est par la foi, pour qu'il s'agisse d'une grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui a la loi, c'est-à-dire aux Juifs, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père, à tous. Selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, père d'une multitude. Il est notre père à tous, devant Dieu, en qui il a cru, qui donne la vie aux morts, et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant, alors vous voyez ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham, espérant contre toute espérance, il crut, donc il aura un enfant, un fils, et il devint ainsi père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance. Et sans faiblir dans la foi, voyez comme c'est beau, on ne reproche pas les moments de défaillance d'Abraham. Voilà comment Dieu voit les choses en finale. Il veut que nous apprenions comment il sait nous éduquer, mais quand il nous a éduqués, après, il ne se souvient plus de nos fautes. Sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait 100 ans, et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort. C'est pas ça qu'il a considéré. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, étant pleinement convaincu de ceci, que ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut compté comme justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit, cela lui fut compté. C'est aussi à cause de nous, à qui cela sera compté, nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur. Alors, est-ce que vous y croyez, vous, à cela? Lui qui a été livré pour nos offenses est ressuscité pour notre justification. Est-ce que vous croyez cela? Eh bien, si vous croyez cela, vous êtes sauvé. Est-ce que vous avez une certitude maintenant? Est-ce que vous allez regarder à ce que vous êtes? Si Abraham avait regardé à ce qu'il était, il aurait douté et il n'aurait rien vu s'accomplir. Eh bien, ne regardez plus à ce que vous êtes, mais regardez à la promesse de Dieu. Ce que Dieu a promis, il est puissant pour l'accomplir. Ce n'est pas seulement pour Abraham qu'il a dit cela, mais c'est pour nous. Alors, si vous avez reçu Christ, si vous croyez à ce doux témoignage de Dieu, qu'il est mort pour nos offenses, et que lui l'a ressuscité pour notre justification, vous êtes sauvés. Est-ce que c'est clair?
Alors, passons maintenant au chapitre 5. Si c'est vrai, cela. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Justifié par quoi? Par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Vous avez maintenant de ce verset 1 à 11. Les heureux fruits de la justification par la foi. L'amour infini de Dieu en a été la source. Vous êtes justifiés par la foi. Maintenant nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à lui que nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Il y a quelque chose de merveilleux là. Maintenant, si vous croyez au Seigneur Jésus, quant à tout votre passé, qu'est-ce que vous avez? La paix. La paix. Est-ce que vous avez cette paix avec Dieu? Il y a deux choses que nous devons considérer. La paix avec Dieu et puis la paix de Dieu. Quant à vos âmes, en ce qui concerne vos péchés, vous devez avoir la paix avec Dieu. Vous l'avez en quoi? Comment? Par Jésus-Christ. Par l'œuvre de Jésus-Christ, vous avez la paix avec Dieu. Mais maintenant, pour avoir la paix de Dieu dans la marche, qu'est-ce qu'il vous faut? Parce qu'on peut avoir la paix avec Dieu, on peut ne pas avoir la paix de Dieu. déchargeons sur lui de toutes nos inquiétudes, qu'est-ce qui nous arrive? La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, vient garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Avoir la paix avec Dieu, ça ne veut pas dire encore qu'on a la paix de Dieu. Donc, c'est la paix avec Dieu qui nous sauve. Mais c'est la paix de Dieu qui nous donne le bonheur quotidien. Quand nous nous déchargeons de tout ceci, comprenez-vous, la nuance entre la paix avec Dieu, que nous avons eu, que nous avons uniquement par l'œuvre de Jésus, et puis maintenant la paix de Dieu que nous avons quand nous suivons les traces de Jésus, quand nous portons avec lui son jour. Alors, nous obéissons à ce qu'il nous dit, ne nous chargeons pas de soucis. Rejetez sur lui tout votre souci, puisqu'il a soin de vous. Alors, la paix de Dieu vient garder mon cœur qui se trompe et mon pensée qui s'agite. Et vous devenez des hommes et des femmes de paix. Souvenez-vous toujours de cela. La paix avec Dieu, on l'a par l'œuvre de Jésus-Christ. La paix de Dieu, on l'a par notre communion qui est établie entre le Seigneur et nous, en sachant aussi nous juger de tout péché, rejetant sur lui tout péché et les soucis, le fardeau des soucis qui nous enveloppent si facilement. Quant à votre passé, vous avez la paix. Quant à votre état présent, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes dans quel état? Verset 2. C'est à lui que nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous nous renferme. Vous êtes en état de grâce. Pour le présent, vous êtes en état de grâce, merveilleux. La paix pour le passé, la grâce pour le présent. Et souvenez-vous toujours de cela. Vous êtes dans la grâce de Dieu. Et de cette grâce, vous pouvez recevoir tout ce dont vous avez besoin. C'est elle qui vous fortifie. C'est elle qui vous enseigne. C'est elle qui sera parfaitement suffisante dans toutes vos épreuves. Vous êtes dans la grâce. C'est pas moi qui vous dis, c'est la parole. Alors vous demeurez ferme dans la grâce. Vous ne vous laissez pas tourmenter par Satan, qui est toujours l'accusateur. Quand Satan vient vous dire, mais en fait, t'es toujours pécheur, t'es toujours le même, etc. Mais vous lui dites, mais je sais. Je suis un vrai pécheur, alors Satan a rien de moi. Tout ce que tu me racontes, je le sais déjà. Et Dieu a fait une œuvre pour me sauver. Et alors, vous me regardez éperdument au Seigneur. Et vous dites à Satan que tu es un menteur et un meurtrier. Arrivez-moi, Satan. Et vous ne vous laissez pas troubler. Ce qu'il vient vous dire, vous le savez. Et puis c'est justement parce que vous le savez que vous avez accepté de son mort. Sans ça, vous seriez perdu. Et alors, pour l'avenir, qu'est-ce que vous avez? La gloire. Hein? Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Alors, il semblerait que c'est suffisant. Devant moi, j'ai la gloire, j'ai la certitude de parvenir à la gloire, parce que quand Dieu commence une œuvre, il va jusqu'à l'achèvement. Il nous a prédestinés à la gloire, il va nous amener à la gloire. Paix pour le passé, grâce pour le temps présent, et gloire pour l'avenir. Il a dit, mais bien plus encore. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus que tout cela? Oui. Parce que nous sommes encore dans le monde. Et alors, nous avons besoin des tribulations. Parce que Dieu va nous former à son école. Bien plus. Nous nous glorifions même dans les tribulations, parce que ces tribulations, nous comprenons qu'elles nous apportent la persévérance, la patience, et la patience, une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouver l'espérance. Nous avons besoin d'accepter de la main de Dieu, nous qui avons la paix avec Dieu, qui sommes dans sa grâce et qui avons devant nous la gloire, nous acceptons donc programme de nos vies qu'il y ait des épreuves, qu'il y ait des souffrances. Et même nous nous glorifions dans ces épreuves, parce que nous savons que toutes ces choses travaillent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc maintenant, il n'y a plus rien qui soit contre nous. Tout ce qui nous arrive est pour nous faire progresser dans la vie chrétienne et produire en nous cette espérance merveilleuse qui ne trompe pas. Pourquoi? Parce que cette chose fantastique nous est arrivée, l'amour de Dieu a été répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est la première fois que dans l'Épître aux Romains, retrouver maintenant la mention du Saint-Esprit qui nous a été donnée. Certes, Jésus a été déterminé fils de Dieu en puissance par sa résurrection d'entre les morts, mais maintenant ici, nous savons que le Christ étant monté à la droite de Dieu, il nous a envoyé son esprit est venu dans mon cœur, et qu'est-ce qu'il a répandu dans mon cœur? L'amour, ce qui nous manque, parce que quand vous voulez faire des œuvres par vous-même, c'est pas des œuvres faites par amour, c'est des œuvres faites par devoir. C'est pour ça qu'elles sont appelées mortes. Tandis que l'amour de Dieu a été versé dans mon cœur, et que, à votre tour, vous aimez parce que lui vous a aimé le premier, eh bien, toutes les œuvres s'accomplissent avec joie et facilité. Nous avons reçu une nouvelle nature qui prend plaisir aux œuvres de Dieu. Car, le verset 6, lorsque nous étions encore sans force, Christ est embarqué et mort pour qui? Pour des impies, c'est ce que nous étions. À peine mourrait-on pour un juste? Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Ça, ça s'est vu. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. Voilà, quand Dieu veut constater son amour, il regarde à la croix. Si vous voulez savoir comment Dieu vous aime, regardez à la croix. Et vous verrez l'amour de Dieu. À bien plus forte raison. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère? Comment pourriez-vous douter de votre salut? Si Dieu vous a tellement aimé quand vous étiez encore des pécheurs, si le Christ est mort quand vous étiez encore des impies, combien plus maintenant que vous l'avez cru, que vous lui appartenez, serez-vous sauvés? Nul ne vous ravira de sa main. Car si lorsque nous étions nous avons été réconciliés avec Dieu par l'amour de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa mort. Alors, ne pensez plus maintenant qu'il y a une possibilité sais pas ce qu'ils ont mis ici alors. Qu'est-ce que vous avez, vous ? Directement avec temps avec le verset, avec le chapitre 6. Peut-être que nous pouvons nous lever et puis je répondrai aux questions. Encore quelques instants. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Le péché aurait dû me faire mourir, corruption dans les sacrifices, au lieu d'apporter une bête qui devait être absolument saine et sans défaut, qu'est-ce qu'on a commencé d'apporter? Des borgnons, boiteuses, etc., qu'on offrait au Seigneur. Dans Malachie, justement, relisez le chapitre de Malachie et vous verrez que bien vite, il y a eu la corruption de ce côté-là aussi. Et c'est une autre question. Thank you. en train de se lamenter parce qu'on est dans l'épreuve, on se dit, mais qu'est-ce qui nous arrive? Est-ce que Dieu nous abandonne? Non. C'est juste pour qu'il est en train de s'occuper de nous. Mais bien sûr, quand on se connaît un peu soi-même, et quand vous êtes dans l'épreuve, bien forcément vous criez au Seigneur. Tandis que dans ces moments où tout va bien, et ces moments où on se dit, mais c'est formidable, on nage dans la grâce, c'est peut-être le moment le plus dangereux. Parce que la chute est toute près. Que celui qui se croit debout prenne garde qu'il ne tombe. Mais quand vous êtes vraiment dans l'humiliation, eh bien, le Seigneur vous bénit. Et il est dit que le Seigneur, en tant qu'homme, a été rendu parfait par les souffrances, en tant qu'homme. En tant que fils de Dieu, il était parfait. Mais, puisqu'il a voulu prendre notre humanité, il nous a enseigné cette vérité que c'est par les souffrances que nous parvenons à la ressemblance de plus en plus conforme à ce que Dieu désire. Puisque nous sommes des fils, nous participons à la discipline. Quand Dieu nous éprouve, c'est jamais dans sa colère. Il n'y a plus de colère pour nous, mais il y a une discipline. Et il nous discipline parce que nous sommes ses fils. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Oui. Alors, on va reprendre. Cela au chapitre